La séance des tirs au sort va bientôt débuter ici, au kiosque à pizza. Il dépose la boîte devant lui. Il recule de 3 pas. Il sort son téléphone. Il se rapproche du QR code. Il s'élance. Et c'est scanné. C'est scanné. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Il gagne une voiture électrique.
Jusqu'au 14 juillet, rendez-vous dans votre kiosque à pizza pour tenter de gagner des pizzas, des consoles de jeux et même une voiture électrique. Voir conditions et règlements du jeu sur lekioskeapizza.com. Pour votre santé, bougez plus. RMC.
J'ai annoncé aussi l'arrivée, faut pas que je me gourde, Tata.
Grosse à nous.
Il y aura il a tué la baraque et puis Marquitos.
Des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le Barca.
Jusqu'à minuit 30, l'After Foot. Intégral Euro.
Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, l'After continue jusqu'à minuit et demi sur RMC et sur la chaîne YouTube de l'After, After-Foot. Nous sommes en direct comme tous les soirs dans l'After, premier podcast de France, votre espèce de liberté à vous les supporters et acteurs du monde du foot. Le 32-16 est ouvert pour analyser les matchs du jour à l'Euro jusqu'à minuit et demi comme tous les soirs pendant la compétition. Et comme tous les soirs pendant la compétition, la libre antenne de l'After suivra de minuit et demi à 1h30 du matin. Florent Gautreau est là, salut Florent.
Salut à tous.
Et Kevin Diaz également est là. Kevin, bonsoir.
Salut à tous.
Au programme, les gars, analyse donc des matchs de ce samedi. Victoire de l'Italie à l'instant face à l'Albanie 2-1. L'Espagne bat la Croatie 3-0. La Suisse bat la Hongrie 3-1. Et les drôles de dames dans quelques instants avec nous. Il y aura aussi l'actu de l'équipe de France au programme tout à l'heure. Direct Studio est là également. Si vous voulez nous envoyer des messages sur nos applis RMC et RMC Sport, c'est gratuit. Et ça vous permet d'entrer en interaction avec Florent et Kevin. Donc n'hésitez pas à télécharger les applis et à envoyer les messages sur Direct Studio. Avant vos 3 points, le score final au rugby entre Toulon et La Rochelle. Winnie Claret, La Rochelle qualifiée.
Effectivement, La Rochelle qui rejoint Toulouse en demi-finale vendredi prochain après sa victoire 34-29 face au RCT ici à Mayol. Les Toulonnais qui ont été complètement submergés par les opportunistes rochelais malgré un essai après le buzzer du talonneur remplaçant Jack Singleton pour Toulon. Ils n'ont rien pu faire, il y avait trop d'écart. 29 donc pour Toulon, 34 pour La Rochelle, et donc un remake de la finale en demi-finale. Toulouse-La Rochelle vendredi prochain au Matmut Atlantique de Bordeaux.
Merci, bonne soirée. Bon, l'essentiel c'est que demain Grenoble monte en top 14. Le FCG des mammouths.
Attention, parce qu'il y en a certains qui ne sont pas tout à fait d'accord ici à RMC. Il y en a qui aiment beaucoup Montpellier.
L'important, c'est que Van ait planté le drapeau breton sur la carte du rugby. C'est vrai.
Par exemple.
Allez, les 3 points. Jingle.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les 3 points.
Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
Kevin, tes 3 points après cette deuxième journée de l'Euro.
Bah écoute, 3 matchs, 3 points. J'ai envie de te dire que d'abord le premier point sera le premier match de l'après-midi avec une équipe de Suisse quand même très intéressante, même si on a pu être déçu par la Hongrie. En deux, bah, c'est la démonstration de l'Espagne qui a vraiment été impressionnante avec une belle équipe, avec un jeu rafraîchissant. Et en trois, bah, c'est bien sûr la victoire de l'Italie qui a été à réaction après s'être fait surprendre dès la première minute, mais qui ensuite a plutôt bien maîtrisé, même s'ils se sont fait peur un petit peu en fin de match.
Bon. Bon, hein, l'Italie sur le match du soir qui fait le job, mais qui montre aussi certaines limites, peut-être plus si on veut comparer par rapport aux autres gros. Et puis on le savait qu'il y avait des limites. Il se rassure surtout d'ailleurs ce soir, enfin, en ayant cette victoire. Le 2, c'est les gros justement qui sont au rendez-vous de manière assez spectaculaire. Espagne, Allemagne et donc quand même Italie. 4 buts par match aussi, donc pas mal de buts. Et effectivement, je rejoins Kevin sur l'Espagne. Ce sera intéressant de voir l'évolution du style de l'Espagne. Moins de possession, mais plus d'efficacité. Puis en 3, je vais sortir du cadre, pas de l'Euro, mais des matchs, pour souligner la prise de parole de Marcus Thuram, qui est une prise de parole rare et courageuse dans le monde du foot. Et donc, je pense qu'on va en parler, on aura l'occasion.
On entendra tout à l'heure.
L'éducation qui a été reçue effectivement par son père.
Voilà, qui s'est prononcé sur les prochaines législatives. Ce sera tout à l'heure, une fois qu'on aura analysé tous les matchs du jour. Johan Crochet, là. Salut Johan.
Salut Gilbert, bonsoir à toutes et à tous.
Et Johan, évidemment, qui suit entre autres l'Italie pendant cet Euro. On va démarrer par analyser ce match. Supporter italien et albanais, le 32-16 est ouvert, n'hésitez pas à nous appeler. Bon, à la fin quand même, on va dire que les Italiens, ils ont eu du mal à plier l'affaire, hein. Bon, ils ont gagné, l'essentiel est là, mais enfin, c'était pas extraordinaire.
Ouais, la première mi-temps, je l'ai trouvée très bonne. Vraiment de qualité, avec pas mal d'occasions. Et toujours, à force de me répéter, mais toujours ce problème de finition devant. Quand tu fais le poteau sur le... Alors, l'arrêt de Strakosha est très beau, hein, sur le petit piqué de Fratesi. Mais Pellegrini en a deux belles également. Scamacca en a une belle en face-à-face aussi. Donc... La première mi-temps est vraiment de qualité, au-delà même de ce qui est presque trop gros pour être la réalité, c'est-à-dire la touche de Federico Di Marco au bout de 20 secondes. La deuxième a été plus compliquée parce que le sentiment que ça m'a donné, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu la volonté de gérer dans un premier temps, parce que finalement, quand tu as une ligne de 6, une ligne de 3, une ligne de 2 côté albanais, bah, tu peux gérer un petit peu comme tu veux. La deuxième difficulté ensuite qui est arrivée, c'est...
Ça fait 12 ça, non ?
Non, ben non, je mets le gardien.
Ah, tu mets le gardien, parce qu'à un moment donné, il y avait une vraie... Non, parce que je dis ça, parce que tu as une vraie ligne de 6 devant le gardien. Ouais.
En première mi-temps, il y avait une ligne de 6 devant le gardien.
Ouais. Ok.
Tout à fait. En deuxième mi-temps, ils sont venus avec un tout petit peu plus d'ambition. Ouais. Ils avaient passé une ligne à 5. Mais ensuite, est venu le volet physique. On a eu des joueurs qui étaient vraiment en difficulté, avec du déchet technique, et surtout dans le contrôle, ils ont endormi la rencontre, mais ils se sont endormis eux-mêmes. C'est-à-dire que la première pensée était pour le jouer derrière et conserver le ballon, ne pas prendre de risques pour pas offrir de transition. Mais finalement, ils ont perdu les ballons quand même sur des erreurs techniques au bout de d'une succession de 30 ou 40 passes. Et tu te fais peur, comme tu l'as dit, Gilbert, sur l'occasion de Manaï, sur le dernier tir croisé légèrement au-dessus.
En fait, c'est une Italie un peu telle que tu nous l'avais décrite. C'est ça, c'est sans marge. Moi, j'avais envie de dire convalescente et de retour en première période, parce que mine de rien, le scénario... Il est quand même compliqué. Ouais. Tu vois, c'est embêtant de te prendre ça en plus sur une grossière erreur. Je trouve qu'ils ont vraiment bien réagi. Là, tu l'as dit. En revanche, après, un peu à l'italienne, à la différence justement des autres gros, c'est pour ça que je faisais cette comparaison dans mes trois points, qui eux ont décidé d'aller marquer le deuxième, d'aller marquer le troisième, voire d'aller marquer le quatrième et le cinquième. On va dire à 2-1, tiens, c'est reparti, il va y avoir plein de buts. Évidemment, j'ai pensé au petit penchant italien, tu vois, de la gestion. J'en voyais un troisième pour tout te dire, pour se mettre à l'abri quand même.
Mais ils ont les occasions, Flo. Hein.
Ouais, bien sûr, il y a les occasions.
Ça,
ouais.
Mais à pas dire qu'ils se sont mis en mode gestion. Hein.
Bah, ils se sont mis en mode gestion mi-temps. Quand même en deuxième, sur les 20 dernières minutes, par exemple, à un moment donné, ils se sont dit, stop, on arrête.
Gestion, je sais pas, en mode gestion avec Donnarumma dans les cages, on y reviendra.
L'arrêt qu'il fait quand même sur. Oui, à la 98e minute, il est de lui, l'arrêt.
Oui.
Après, les arrêts de Donnarumma, ça n'a jamais été un problème. C'est quand même un gardien qui est très fort sur sa ligne. Par contre, on en parlait encore une fois avec Flo. À chaque fois qu'il y a quand même un corner, même en Italie, ils ne sont pas rassurés.
Le but qu'il prend, petit côté, là.
Mais tu sais que.
Non, alors, ça, c'est encore une chose. Belle frappe, quand même.
Ouais.
Belle frappe.
Elle est légèrement déviée au passage.
Moi, je veux dire, un gardien de but qui prend un but là, il sait que c'est pour sa gueule. Il sait que c'est pour lui.
Autres, parce que le ballon est dévié et que la trajectoire.
Tu peux pas prendre un ballon petit côté là quand t'as
mais ça va vite, ça va vite, rebond, c'est la première minute.
La touche qui revient dans ta surface aussi vite, première seconde, t'as pas ton placement, t'as pas ton truc, à la limite. Non, il y a une action emblématique du problème de Donnarumma dans les airs, j'en parlais avec Kéline. En première période, je sais pas si tu te souviens, Johan, c'est une période où, c'est une phase où, comment il s'appelle l'arrière droit, mince.
Le vrai arrière droit, enfin.
Non, là, aujourd'hui, italien. Ouais, Di Lorenzo, mais en corner. Et ils sont que tous les deux. Il n'y a pas d'attaquant. Donnarumma peut aller la pêcher, si tu veux, en parlant fort. Et quand Di Lorenzo la met en corner, il lui dit, en gros, je l'avais. Et Di Lorenzo lui fait style, je sais pas, il a répondu un truc du style, écoute, moi, dans le doute, j'ai mis en corner. Et je trouve que cette action, elle était emblématique d'un truc que lui pouvait pêcher sans problème. Ils ont un corner contre eux. Donc, c'est quand même, je pense, ça restera pour le PSG comme pour l'Italie. On en reparlera, on verra dans l'évolution de l'euro, mais ça reste un souci. Évidemment, ça n'empêche pas qu'il te sauve sur sa ligne, te fait toujours les arrêts nécessaires, c'est vrai aussi. Quoi. Mais le débat, il est toujours le même. Quoi.
Ouais, non, mais c'est bizarre de commencer l'analyse du match par Doran.
Non, c'est sûr que c'est pas le point crucial.
Non, c'est ma faute que tu.
C'est Gilbert.
Parce que t'aimes bien le bâcher, on le sait, Gilbert.
Je suis désolé, je vois à chaque fois que c'est défaut. C'est comme ça.
Après, il y a quand même 812 passes dans ce match, 750 réussies. Ils ont quand même ultra dominé, bien sûr, cette équipe d'Albanie. Et ils ont quand même mérité de gagner, même si c'est vrai qu'ils se sont fait peur à la fin. Moi, j'étais quand même agréablement surpris par cette équipe d'Italie, puisque tu prends un but à la première minute, t'es pas dans une des meilleures périodes de cette sélection. Ils auraient pu baisser la tête, mais même s'il y avait peu d'adversité en face, je trouve qu'ils ont quand même très très bien réagi, notamment dans les 45 premières minutes.
Tu vois, Kevin, là où c'est, je trouve c'est un peu dommage. Alors on attendra de voir ce qu'en disent les joueurs et Luciano Spalletti, mais tout le travail préparatoire qui était de très bonne qualité en première mi-temps était mis en valeur parce que ensuite tu enchaînais sur un changement de rythme et de la verticalité. En deuxième mi-temps, tu avais toujours ce travail préparatoire très intéressant avec des joueurs qui bougeaient, qui se mettaient en mouvement, qui étaient offraient des solutions de passe proches aux porteurs du ballon. Sauf que derrière, tu n'avais plus aucun changement de rythme, plus aucune verticalité, plus de mouvement de profondeur. D'ailleurs, c'est pour ça que Spalletti criait énormément sur le bord du terrain. C'est ce que rapportait l'homme de terrain de Sky Italia. Et donc,
c'est vrai, on l'entendait
tout ce
même
travail préparatoire ne servait à rien d'autre que d'endormir l'adversaire finalement. Et c'est là où, à force d'endormir l'adversaire, moi je considère qu'ils se sont endormis et qu'en voulant jouer petit bras, tu as failli perdre très gros et perdre 2 points. Et oui, perdre 2 points.
Après, en fait, dans ce match, il y a à la fois plein de promesses, un peu ce que tu dis, et plein quelques limites. Craintes. Ouais, plein de limites. Mais les promesses, tu vois, sur le premier Chiesa, dont on peut penser qu'il va retrouver, tu vois, qu'il a retrouvé ses jambes là, sur la première mi-temps, tu t'es dit, ça peut être top, ça peut être génial. Mais effectivement, même Scamacca, que toi et moi aimons, à la fois dans sa finition, il manque quelque chose. Et quand, je ne sais plus qui fait la tête derrière lui, ça doit être Pellegrini, qui croit que Scamacca va toucher sans doute, c'est pour ça qu'il rate sa tête. Mais c'est vrai que là, on voit quand même des carences de finition pour le très très
Scamacca, je trouve qu'il manque un peu de finesse quand même. Je ne sais pas comment vous voyez le joueur,
c'est sûr que c'est pas Diego Forlán, quoi. Ça manque un peu de finesse,
un peu brut de pomme, quoi.
Après, quand t'as un gars qui a sa morphologie, c'est quand même très très rare que ce soit un gars très fin techniquement. Maintenant, c'est un gars quand même qui pèse sur une défense, c'est un joueur intéressant, moi j'aime bien. Alors je sais pas, hein, parce que c'est vrai que toi qui suis beaucoup la Roma, moi Pellegrini j'aime beaucoup. J'aime beaucoup celui qui fait quand même la passe D. Il a quand même un sacré pied. Alors certes, il rate ce but, mais il est un peu en déséquilibre. Il tombe un peu sur les fesses. Il essaye de la remettre d'où elle vient.
C'est quand même un pénalty en mouvement, c'est incroyable, hein, je crois.
Ouais, mais c'est pas facile parce que
qualité-là. Hein.
Ouais, mais l'idée, c'est bien joué d'essayer de la remettre d'où elle vient, en fait. Il est sur les talons et donc du coup, il a du mal à cadrer.
C'est étonnant qu'il soit aussi peu stable. Si tu veux, des fois, on te la donne mal, on te la donne derrière toi. Là, on la lui donne super bien et il se met lui-même sur le cul.
Il a voulu faire un très beau geste, en fait. Un contre-pied presque sur les
gardiens. Non, mais c'est tout ça, ça montre plusieurs. Il y a plusieurs phases où. Moi, Scamacca, je suis moins sévère que vous sur la technique parce que j'ai remarqué qu'en point de fixation, il perd pas le ballon, il va le ramener sur le côté à un moment donné, il la prend, il la garde, il la redonne et tout.
C'est pas un peintre. Hein.
Non, mais c'est pas tant ça. Moi, c'est plutôt dans la finition, vraiment, que tu l'as dit, pour Pellegrini, pour Scamacca aussi, mais pour Fratesi aussi, parce que. Oui, c'est vrai qu'il y a l'arrêt du gardien.
C'est le geste juste, hein, quand même. Ouais, c'est
l'arrêt du gardien. Ouais. C'est vrai qu'au départ, on ne voyait pas, mais c'est vrai qu'il y a l'arrêt, donc ça on va l'enlever. Et après, j'ai un doute aussi, moi, sur le côté physique pour le milieu de terrain. Parce que les 60 premières minutes, on peut dire, à peu près, ont été vraiment bien gérées.
Ouais, c'est ça.
Mais la dernière demi-heure, t'es quand même. Alors oui, on va dire qu'il y a une prépa aussi un peu foncière qui peut se ressentir. Quand tu vas aller plus loin, ça peut être logique. Mais je trouve
qu'il y a Barella qui revient de blessure aussi, hein, qui a pas joué.
C'est vrai.
Moi, je pense qu'ils ont eu peur un peu aussi à la fin.
Totalement.
Oui.
Totalement.
Ouais, sans doute. Donc ils sont pas en pleine confiance. Donc effectivement, une équipe comme ça, à 2-1, à 20 minutes de la fin, tu retombes un peu dans les trucs. Mais physiquement, j'ai vu beaucoup ça crampait beaucoup quand même, très tôt. Bon, voilà, après
ils ont peut-être fait une préparation à l'italienne.
Ouais, même si maintenant, tu sais, il n'y a plus beaucoup de clubs qui font des préparations à l'italienne comme avant. Mais c'est vrai que c'est pour ça que je disais, c'est un peu en 2 points la deuxième mi-temps. C'est un, le contrôle, mais où tu t'endors, et deux, l'élément physique qui vient se rajouter à ça et qui fait qu'à la fin, tu paniques un peu parce que, avec ton problème physique, tu n'arrives plus à ressortir des ballons. Tu allonges et tu perds tout de suite le ballon. Je trouve que, par exemple, Jorginho, il fait vraiment pas un dernier bon quart d'heure. Ouais. Il y a beaucoup de ballons perdus sur des passes mi-longues et des passes assez simples quand même.
C'est surpris qu'il reste sur le terrain, en fait.
Ouais, mais t'as pas beaucoup de solutions au milieu de terrain.
Alors, et après, il y a un truc positif que j'aime beaucoup dans cette équipe, et là qui n'est pas du tout dans la tradition, la vieille de la tradition italienne, c'est l'apport des défenseurs devant. Offensivement, c'est-à-dire que soit Di Marco, même Calafiori, pas devant, mais à un moment donné, il a franchi les lignes. C'était lui qui était. Moi, j'ai bien aimé. Alors, il a fait quelques fautes et une faute très très grossière quand même, qui lui vaut un carton jaune. Mais même Di Lorenzo, on le retrouve très très souvent devant. Et moi, j'aime beaucoup cette Di Marco, Di Lorenzo, c'est top.
Di Marco, c'est un attaquant, le mec. Hein,
ouais. Et Cambiasso, qui c'est une vraie solution. En plus, il peut jouer des deux côtés. Et lui, il est plus. Il a plus les qualités limites d'un milieu de terrain que d'un latéral, mais ça t'amène une autre possibilité, une autre palette pour contrôler le jeu sur les côtés, et c'est vraiment intéressant. Et là-dessus, il n'y a pas trop de soucis. Je trouve vraiment qu'au milieu de terrain, Bon, quand Cristante rentre, t'as pas du tout le même contrôle de balle, tu n'as pas non plus la même énergie, t'es plus à l'aise dans le jeu aérien, et ça a été important sur les longs ballons à la fin de l'Albanie. Mais il te manque quand même globalement quelque chose. Alors on verra ensuite, parce que tu mets Pellegrini dans un poste très offensif, excentré côté gauche, même s'il se réaxe très facilement. Il faudra voir si c'est la teneur de tout l'Euro, ou si des joueurs comme, je sais pas, Zakaï, Al-Sharawi peuvent donner une contribution et avoir un Pellegrini un petit peu plus bas sur le terrain. Mais oui, le déficit physique au milieu de terrain entre un Jorginho qui a du mal à finir les matchs, mais de manière assez globale, et un Barrel là, qui revient de blessure. Bon, Barrel, là, il finit le match. Enfin, à partir de la 60e, il y a plus d'essence. Hein. Il est carbo, mais il tient parce que c'est ton leader technique, c'est ton meilleur joueur de l'équipe, et donc ouais, c'est de clair garder que, un maximum sur le terrain.
C'est clair que c'est vraiment le leader de cette équipe, avec en plus ce but qui techniquement est extraordinaire. Je sais pas si vous regardez bien, mais en fait il prend le ballon de la cheville.
C'est même pas
du pied, en fait il prend le ballon du bas de la cheville, mais il est tellement bien équilibré qu'il arrive à trouver le cadre. C'est un très très beau but de foot.
On continue le débat sur ce match dans quelques instants au 32-16. Oh, l'alerte est là. C'est le moment donc de vous inscrire pour vivre l'expérience RMC et gagner votre voyage et vos places pour assister à France-Pologne le 25 juin prochain. Vous avez donc 5 minutes maintenant pour envoyer euro par SMS au 732-16. Euro par SMS au 732-16. Bonne chance. Dans un instant, Jesuino avec nous au 32-16, supporter de l'Italie. Et ensuite, on passera à l'Espagne, à la Suisse, à l'équipe de France. Jusqu'à minuit et demi, l'after est là avec vous. À tout de suite.
La séance des tirs au sort va bientôt débuter ici au kiosque à Pizza. Il dépose la boîte devant lui. Il recule de 3 pas. Il sort son téléphone. Il se rapproche du QR code. Il s'élance. Et c'est scanné. C'est scanné. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Il gagne une voiture électrique!
Jusqu'au 14 juillet, rendez-vous dans votre kiosque à pizza pour tenter de gagner des pizzas, des consoles de jeu et même une voiture électrique! Voir conditions et règlements du jeu sur lekioskeapizza.com. Pour votre santé, bougez plus.
RMC jusqu'à minuit 30. L'After Foot intégral Euro.
Gilbert Bribois.
23h17, Florent Gautreau et Kevin Diaz sont là. Johan Crochet également, on analyse le match de l'Italie qui a battu l'Albanie 2-1 ce soir. Et Jesuino est avec nous au 32-16, supporters italiens. Salut.
Bonsoir à tous.
Salut. Ciao. Ça va?
Ouais, super, super, soulagé là.
Il y a un truc avec l'Italie, je sais pas ce que t'en penses. Moi, d'expérience, faut jamais trop se fier au premier match de l'Italie dans une grande compète. Non, enfin, je sais pas.
Tu vois,
comme il y a une maturité quand même, bon, voilà, dans cette sélection, une façon d'aborder des compétitions, le premier match n'est souvent pas celui qui te donne une tendance claire sur la sélection italienne.
C'est sûr, parce qu'on voit, c'est vrai que l'Italie, on ne parle jamais, parce que moi, des fois, mon favori, j'aime pas ça, parce qu'on se croit trop beau et au final, ben, on tombe. Et je sais qu'on ne parle pas souvent de l'Italie, mais l'Italie, bon, elle répond présent. Hein. Le dernier Euro, on était là, on a commencé tranquille aussi. Mais après, ça m'a fait peur aussi aujourd'hui. La première période était très, très bien. La deuxième, plus chaud, on a failli se faire un hold-up, hein. C'était pas loin, mais voilà, c'était chaud, quoi. Franchement, un peu rassuré aussi, parce qu'il y a de bons joueurs, il y a des piliers et tout, et des surprises, comme Calafiori, très bien joué, Barella au top, voilà, un peu déçu de Scamacca, ce qu'il a loupé. Mais voilà, après, je suis confiant, après, voilà, je pense qu'on va ressortir un gros match contre l'Espagne. Et ça va le faire, je pense.
Ça veut dire que pour toi, l'Italie a tout pour garder son titre. C'est ce que je comprends là.
J'espère. Après, c'est toujours dur de garder un titre. Parce que, bon, voilà, tout le monde nous attend, je pense.
Alors moi, évidemment, on me le ressortira si l'Italie est championne d'Europe. Mais alors moi, j'y crois. Malgré tout, et même s'il y a les quelques promesses dont on a parlé, moi, j'y crois pas trop. Hein.
Parce ouais, ça va être chaud. Hein.
Moi, je trouve qu'il y a.
Je dis l'Italie. Faut jamais tirer de plan définitif.
Là, on n'a pas. Tu as posé la question, défendre le titre.
On aura le début d'une réponse face à l'Espagne. Oui. Qu'est-ce que ça va donner? Parce que c'est quand même un euro.
D'autant que l'Espagne a plus impressionné aujourd'hui que l'Italie, quand même.
Mais voilà. Donc, ce sera un bon test.
Ça rappelle 2006. Et je pense que tous les gars, ils veulent retourner à Berlin, hein, même Buffon. Hein, je pense que. Faut fermer les valises et retourner à Berlin, je pense. Hein, tout le monde veut y aller. Hein. On fait le doublé. Hein.
C'est pas la même équipe. Hein.
Avec les fameux commentateurs de Sky Italia et Fabio Caressa qui dit Andiamo a Berlino Beppe, en parlant à son compère Beppe Bergomi après la demi-finale contre l'Allemagne. On va à Berlin, Beppe, et effectivement, le chemin tout tracé. D'ailleurs, ce soir, c'est marrant parce qu'il joue à Dortmund. Et Del Piero était là pour la télé italienne, pour Sky, une des deux télé italiennes. Et il y a eu beaucoup d'allusions à cette demi-finale gagnée contre l'Allemagne en 2006.
Oui, tu as eu une première réaction, je crois, de Spalletti, là, que tu as vu, Johan.
Ouais. Alors, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. La première, c'est que dans la deuxième mi-temps, lui, alors, il commence par dire qu'il y a beaucoup de choses qui lui ont plu, et que finalement, c'est une bonne première prestation de l'Italie. Par contre, ce qu'il a pas trop aimé, c'est que ce qu'on disait, hein, ils se sont créés des opportunités en deuxième mi-temps où ils auraient pu aller de l'avant et finalement ils faisaient que des passes en arrière où ils reprenaient un temps de jeu pour reconstruire quelque chose lentement et ça l'a passablement agacé. La deuxième chose, et c'est ce qu'il faut retenir je pense, c'est qu'il l'explique, parfois on est trop dans le confort et on n'est pas assez méchant. Et je pense que la deuxième mi-temps, il va y avoir un gros débrief demain, hein, pour les joueurs, en disant « Ok, la première mi-temps, elle était vraiment à un niveau de championnat d'Europe des Nations. La deuxième mi-temps, par contre, il n'y a pas grand-chose qui va. Alors, on peut étendre... allez, ils ont bien fait jusqu'à la 55e, mais à partir de la 55e, ça a été nettement insuffisant et ça n'a pas trop plu à Spalletti non plus. Et Barella a confirmé hein, qu'il était totalement cramé en deuxième mi-temps.
Bon, tu es d'accord avec ce que j'ai dit là sur les premiers matchs de l'Italie, que c'est jamais
forcément
une tendance définitive sur cette équipe.
Non, il y a pas de vérité absolue, ça c'est clair. Il faut quand même au-delà même de comment tu démarres sur le plan de la prestation, ce qui a été très important, c'est de tout de suite engranger 3 points. Parce que dans cette espèce de tout petit championnat où avec les meilleurs troisièmes tu passes, normalement 3 points, ça doit te permettre aussi de passer. Donc,
en fait, avec 3 points, t'as pris, enfin, en tout cas avec 4, t'es qualifié, mais avec 3, tu peux l'être. Voilà.
Ouais, exactement. Donc, ça te libère aussi un petit peu mentalement pour une équipe qui n'a pas un énorme vécu ensemble, parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup de joueurs qui étaient à l'Euro précédent qui sont dans cette sélection-là. Et donc, ça aussi libère sans doute un petit peu les joueurs avant d'affronter les deux gros morceaux du groupe, Espagne et Croatie.
Alors, je remercie Jésuino. J'aimerais qu'on fasse quand même une évaluation un peu plus poussée. On peut y aller sur les Italiens parce que, bon, effectivement, même s'il y en a qui ont fini cramé, Barella a fini cramé, ça n'empêche pas qu'il ait fait un très bon match.
Barella, c'est bien dans la tradition de ces meneurs et de ces joueurs qui font la diff, comme ça, techniquement, qui ont un pied incroyable. Bon, bah, j'espère qu'il va physiquement en plus reprendre du. Enfin, revenir fort. Après, moi, j'ai vraiment bien aimé, parce que je le connais peu, Calafiori. Ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé son attitude. Déjà, c'est sa troisième sélection, c'est ça ?
Alors là, c'est la quatrième, je crois.
Quatrième, enfin, en tout cas, voilà. Je veux dire, pour un jeune.
Non, joueur, c'est la troisième, t'as raison, c'est la troisième.
Troisième, j'ai entendu ça, pour tout te dire, mais troisième sélection, j'ai trouvé que le gars, une prise d'initiative, de responsabilité, une qualité, pour le coup physique, un apport important. Moi, j'ai adoré.
C'est son profil. Hein. Alors, juste pour expliquer, c'est un latéral de formation, latéral gauche. Et ça fait que quelques
1m88, latéral gauche ?
Ouais, exactement. Et c'était d'ailleurs un des plus grands espoirs du centre de formation de la Roma. Il a eu une grave blessure. Et ensuite, il a eu du mal à revenir. Et Mourinho ne lui a pas trop fait confiance. Mais comme c'est un jeune, c'était un peu logique avec Mourinho. Il est parti à Bâle. Il a commencé à jouer un petit peu central. Et c'est vraiment Thiago Motta à Bologne qui l'a remis en défense centrale. Enfin, qui l'a mis en défense centrale, qui l'a imposé là. Et
c'est un membre de la flotte qui aurait dit qu'il n'a pas fait son trou à Bâle.
Oui, mais bon, par exemple. Mais il est en vacances. Enfin, il est off, comme on dit. donc, non, mais.
Beaucoup de joueurs de Bologne à l'Euro. Il y avait plein de Suisses, là, cet après-midi.
Ouais, Freuler, Aibischer, je crois qu'il y avait. Endoy.
Zirkzee, du coup. Trois Suisses, ouais.
Vous voulez dire un euro à la sauce bolognaise ?
Pas mal.
Mais oui, Calafiori, dans l'utilisation du ballon, il est très intéressant. Attention, par contre, à la gestion de la profondeur. Sur les dernières minutes de match, tous les longs ballons en profondeur, il a eu vraiment du mal à gérer la trajectoire. Et autre chose, parce que comme tu es je vais pas dire un non-match, mais une sorte d'attaque-défense quelque part, tu t'attaches à plein de petits détails que tu vois comme ça et tu te dis attention sur les matchs suivants, ça passera pas. Mm-hmm. Bastoni, les mains baladeuses à tirer les maillots et à pousser dans la surface les joueurs,
exact.
Il va vraiment falloir faire attention parce que tu peux le faire une fois pendant l'Euro. Mais ça passera pas tous les matchs.
Ouais, c'est clair qu'il y a eu des situations. Enfin là, pour ça, les Italiens, il faut qu'ils fassent gaffe. Même le carton pris très tôt, ils font faute. D'ailleurs, les Suisses, c'est un peu pareil. Les fautes, entre guillemets, là, qu'on appelle utiles. Tu sais, genre, je fais faute. Ouais. Oui, monsieur l'arbitre, il y a faute, pas de problème. Je prends le carton. Je crois que c'est c'est Pellegrini, hein, c'est ça, ouais. Bon, très tôt quand même, hein, très vite, ok. Ça aussi, dans des matchs plus chauds, plus costauds, ça demande des gestions. Mais en tout cas, ouais, effectivement, tu as raison. On n'a peut-être pas vu avec l'opposition, avec le jeu offensif adverse, parfois inexistant, mais moi, j'ai bien aimé l'attitude et les qualités de ce joueur-là, quoi.
Ouais, après, moi je trouve Calafiori évidemment, Barella, Pellegrini fait une première mi-temps vraiment très intéressante. Après, il plonge un peu physiquement. Chiesa.
Chiesa a été élu homme du match là, par l'UEFA. Comment on juge le match de Jorginho, qui était le mec étincelant du dernier Euro?
Bah, il est très utile dans tout ce qu'a fait l'Italie, finalement, dans le contrôle. Je veux dire, quand tu as un match comme ça à contrôler, évidemment que Jorginho, il est très très utile. Par contre, vraiment, je réinsiste là-dessus, dans les 15-20 dernières minutes, le nombre de ballons perdus, où tu te dis, si tu es dans le contrôle, mais que tu n'avances pas, c'est pas pour perdre le ballon. Si tu fais des passes latérales à 10 mètres ou à 15 mètres qui sont molles et qui sont interceptées, à ce moment-là, bah, accepte de prendre plus de risques et donc de perdre des ballons, mais qui vont t'apporter d'autres choses sur phase offensive. Là, ils ont contrôlé, mais en perdant des ballons... En Italie, on dit sanguinoso, un ballon qui, en gros, peut te faire très mal.
Des ballons chauds, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça, un ballon qui peut te faire extrêmement mal en transition. Donc là-dessus, je trouve que Jorginho, avec l'expérience qu'il a, il doit être en capacité de mieux gérer ces situations-là.
Après, il y a quand même un problème avec Jorginho, c'est qu'il joue un football d'un autre âge quand même. Il est quand même très très lent. C'est difficile de quand il est fatigué. En plus, comme tu as dit, sur les 15-20 dernières minutes, ils étaient tous fatigués. Donc déjà que lui, il est pas très rapide. Donc fatigué, c'est vraiment très très lent.
Mais ça
donc,
dépend derrière... Kev qui tu lui adjoins. C'est surtout ça, je pense, la clé.
Non, mais bien sûr, mais à partir du moment où Barella est fatigué, donc du coup, tu as un changement. Ouais. Après, quand il y a des changements, il y a quand même deux joueurs sur les trois milieux de terrain qui sont remplacés. Donc forcément, l'alchimie au milieu de terrain, elle met un peu de temps à se refaire ou elle ne se refait pas du tout jusqu'à la fin du match, quoi.
Non, mais tu as raison. Et d'ailleurs, moi, le manque de dynamisme, hein, au milieu de terrain, vraiment...
Je veux dire qu'il manque Verratti?
Non. T'en profites que Daniel soit pas là, toi. Non, c'est même pas ça. C'est plus vraiment, tu vois, des joueurs du profil de Barella et Fratesi. Il en faudrait un troisième pour qu'en cours de match, tu aies ce type de profil qui t'amène beaucoup de dynamisme. Florunso est capable plus ou moins de le faire, mais on est quand même sur un niveau inférieur, hein, au-delà même de l'expérience, sur le niveau global du joueur. Et derrière, Cristante n'est pas du tout ce prototype de joueur-là.
Ah bah non.
On peut espérer sur Fagioli. Fagioli est un meneur de jeu reculé qui est très intéressant. Il faudra voir d'ailleurs, hein, si au cours de l'Euro, là, Fagioli ce soir était blessé et il pouvait pas être titulaire, il pouvait pas jouer. Mais je ne suis pas persuadé que sur l'Euro, on ne puisse pas avoir un milieu à trois définitif avec un double pivot, double playmaker, Fagioli, Jorginho, Barella un peu plus haut, Pellegrini aussi. Il faudra voir comment ça s'articule, mais Fagioli, il est très apprécié de Spalletti.
Dis-moi, le meilleur numéro 9 italien en ce moment, c'est Scamacca? De ton point de vue?
Oui, moi je pense que oui. Moi, c'est un profil que j'adore, mais je concède aisément que en sélection, devant le but... C'est pas ça. Il suffit de regarder tout bête, hein, les stats. Un seul but en sélection, c'est pas suffisant. Moi, j'adore ce profil. Et le lundi soir, dans les Drôles de Dames, avec Nico Jamin, j'en ai parlé très souvent. Moi, vraiment, j'apprécie tout ce qu'il est capable de faire. Il y a une différence entre le faire en Serie A et le faire... C'est un peu avec des profils totalement différents, hein, mais Immobilier, il mettait 30 buts par saison en Serie A. Arrivé à la sélection, c'était dur. Mais de toute façon, hein, dites-vous bien que au-delà même du simple cas Scamacca ou Immobilier la dernière fois, vous savez quel est le meilleur buteur en sélection depuis 2000?
Vieri?
Ah non.
Vas-y, en sélection?
Bah, oui, en sélection, depuis peut-être 2000.
Depuis 2000? Je sais pas, Del Piero?
Sur 24 dernières années.
Del Piero?
Non.
Ah, Inzaghi alors?
Non plus, c'est Daniele De Rossi.
Ah ouais, c'est des pénaltys alors.
Ah oui,
beaucoup de pénaltys et des frappes de loin. Oui. Donc c'est pour montrer que même à une époque où il y avait beaucoup de neufs, les Montella, Vieri, Inzaghi, etc., bah, c'était pas forcément beaucoup mieux. Alors ils marquaient eux quelques buts, Lucatoni, Gilardino, ils marquaient quelques buts quand même, mais on n'était pas non plus sur des mecs, des Miroslav Klose qui te mettaient je sais plus combien de buts sur une édition de Coupe du Monde. Hein.
Un mot sur l'Albanie quand même pour conclure, les gars. Qu'est-ce que vous avez pensé?
D'ailleurs, le buteur joue en Italie.
Ouais, bah, il y a Rami à Sassuolo.
Il y en a beaucoup qui jouent en Italie.
Ouais, ouais, il y a bah, le capitaine. Il y a des liens importants entre les deux pays.
Il y a 10 convoqués sur 26 qui jouent en Italie.
Ah, là, c'est comme ça. Les Suisses vont jouer en Allemagne, les Albanais vont jouer en Italie.
L'Albanie, en fait, a été. Enfin, le côté aussi bas, aussi bloc bas à ce point, moi, m'a un peu
gêné. En plus, quand tu marques à la première minute, voilà, ça t'aide pas.
M'a un peu gêné parce qu'après, effectivement, ils se sont clairement dit on va faire comme ça et on va aller essayer de les piquer en contre. J'ai préféré l'Albanie finalement de la deuxième période, puisque paradoxalement ils n'ont pas marqué, mais au moins, comme le disait Johan, ils sont pas restés avec leur ligne de 6 là derrière, ils ont décidé d'avancer un peu. C'est quand même limité. C'est pour ça que, au regard de ce qu'on a vu sur les autres grosses nations, tu vois, que l'Italie se soit fait, on va dire, autant peur, aussi peur avec cette fin de match, c'est quand même un peu embêtant.
Et ce qui est dommage, moi je pense vraiment qu'ils avaient les moyens de plus gêner l'Italie en jouant un petit peu plus, ouais, parce que pour connaître beaucoup de ces joueurs-là qui jouent en Italie, il y a vraiment des joueurs avec une belle qualité technique et capable de poser pas mal de problèmes.
Et puis il leur manque peut-être un mec un peu chapeau 1, quoi. Et, tu vois,
ouais, sans doute. Ouais, t'as raison.
Non, mais le but est un faux ami, en fait, leur but. Non, mais le but à première minute, c'est paradoxal, mais et si tu veux, effectivement, ils se sont tout de suite mis derrière, bam, et puis on arrête de jouer parce que c'est inespéré. Et alors que peut-être que tu vois ce qu'ils ont montré par séquence en deuxième période, ils étaient capables de le faire.
Sur un petit coup du soir, ils ont pu égaliser quand même.
Mais ouais, je pense que si l'Albanie fait le même type de match contre l'Espagne et la Croatie, ça va être trop dur à eux de sortir plus, parce que même l'Espagne, on l'a vu aujourd'hui, l'Espagne défensivement, tu peux les mettre en difficulté, donc à eux de jouer sur leur vraie qualité et pas faire ce que disait Flo, une ligne de 6 de la deuxième à la 45e minute, c'est pas possible.
À la 30e minute, tu regardais les visages, ils avaient tellement couru dans le vide déjà, c'était trop dur. Et tu as raison sur l'Espagne, c'est une bonne remarque. Dans la foulée de leur but, de chacun des deux premiers buts, tu rentrais comme du gruyère dans la défense espagnole. Les Croates ont une occasion après chaque but espagnol quasiment. Donc là, c'est pareil, l'Espagne a clairement été la meilleure, mais si tu regardes bien le match, t'as des opportunités.
Ils peuvent en prendre 4 aussi contre l'Espagne.
Oui, par contre, ils peuvent en prendre beaucoup.
Ah oui, bien sûr, aussi. Mais en tout cas, quitte à ça, justement, t'as intérêt, quand même, aujourd'hui, c'est quand même l'histoire un peu du foot moderne. Intérêt d'essayer de jouer, d'essayer de faire quelque chose plutôt que d'attendre.
On va en parler de l'Espagne dans quelques secondes. Merci Johan. Demain les Pays-Bas jouent contre la Pologne.
Exactement. Donc, à demain alors.
Exactement, tu seras avec nous. Match du groupe de la France.
Non, mais n'empêche que réussite des gros là dont on parle met un peu la pression sur les futurs qui arrivent. Gros. Ah, oui, c'est-à-dire le Pays-Bas contre la Pologne, la France contre l'Autriche. Tu te dis, bon, bah.
L'Angleterre.
Montrez-nous. L'Angleterre aussi, évidemment.
Dans un instant, débrief du match de l'Espagne face à la Croatie tout à l'heure, 3-0 pour les Espagnols. Et puis je vous rappelle que lors de chaque match de l'équipe de France dans cet Euro, l'After sera dans des villes qui étaient les premiers clubs de certains internationaux. Lundi, pour le match de l'équipe de France, l'After sera à Mâcon. Et oui, on sera au stade là-bas, au stade où Antoine Griezmann a démarré. Vous pouvez venir assister à l'After. Hein. Lundi, vous envoyez un petit mail à public@rmc.fr. Il y a de la place. Hein. Il y a aux alentours de 1000 places pour assister à l'émission et regarder le match en plus. Il y aura aussi l'émission de Jérôme Bretagne, Rotten sans flamme, qui sera là lundi. Donc à Mâcon, n'hésitez pas, vous trouvez toutes les infos sur rmcsport.fr. Et puis vendredi de la semaine prochaine, nous serons à Grenoble, premier club pro d'Olivier Giroud. Stade des Alpes, on sera au Stade des Alpes, là aussi vous pouvez venir, vous inscrivez public@rmc.fr. Et puis pour le dernier match de poule de l'équipe de France, on sera à Fougères, ville de
Camavinga.
Puis aller à Tours pour Giroud quand même. Ouais. C'est Grenoble, c'est quand même là où on lui a dit t'as pas le niveau pour jouer en Ligue 1.
Ah, mais surtout, en fait, on associe
même en Ligue 2.
On associe Grenoble, son premier contrat pro, avec le club de Froges, qui est celui où il a vraiment démarré entre Chambéry
ça,
et Grenoble.
C'est différent. Mais à Grenoble, on lui a dit en gros tu y arriveras pas.
On va accueillir les gens de Froges au Stade des Alpes.
On dit Froges.
Froges, ouais.
D'accord.
Toi, t'aurais dit Froges?
Non, je sais pas. Je connais pas. Donc, c'est toi le local. Hein.
Ouais, moi je suis très content d'aller à Grenoble.
Toi, t'es made in Champs-Rousse, toi.
Champs-Rousse, la plus belle station du monde. Tu connais Champs-Rousse, Kevin?
Je connais pas Champs-Rousse.
Tu connais pas Champs-Rousse? Non. Ouais, c'est parce que t'as raté. Toi, tu peux aller à Courchevel, à Beugey. Va à Champs-Rousse,
tu connais les sept lots, alors.
Bien sûr, les sept lots. Collet d'Alvar.
Est-ce que vous connaissez la chapelle d'abondance à côté de Châtel?
Ouais, pas mal. Ouais, mais va faire du ski près de Grenoble, tu verras, tu vas te régaler.
Ouais. Bah, on a été avec les RMC.
Le massif de Beldon.
Massif de Beldon, bien sûr. Avec,
est-ce que tu considères que l'Alpe d'Huez est à côté de Grenoble?
Le chalet de la Pra, le refuge de la Pra, superbe. Oui.
L'Alpe d'Huez, c'est à côté de Grenoble.
Oui, bien sûr. L'Alpe d'Huez, deux Alpes. Allez, à tout de suite pour l'Espagne face à la Croatie.
La séance des tirs au sort va bientôt débuter ici au kiosque à pizza. Il dépose la boîte devant lui. Il recule de trois pas. Il sort son téléphone. Il se rapproche du QR code. Il s'élance. Et c'est scanné. C'est scanné. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Il gagne une voiture électrique.
Jusqu'au 14 juillet, rendez-vous dans votre kiosque à pizza pour tenter de gagner des pizzas, des consoles de jeux et même une voiture électrique. Voir conditions et règlements du jeu sur lekioskeapizza.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
RMC, jusqu'à minuit 30, l'After Foot, Intégral Euro,
Gilbert Bribois.
Grand Gautreau est là, Kevin Diaz est là, il est 23h39, messieurs, je vous demande d'accueillir Fred Hermel. Fredo, bonsoir.
Hola, chicos.
On va analyser Espagne-Croatie ensemble, 3-0 pour les Espagnols. Bah, moi, je t'avoue que je m'attendais à un match beaucoup plus serré, peut-être que toi aussi, Fred. Il n'y a pas eu photo. Bon, on va aussi parler de la Croatie. On va dire que l'Espagne démarre très bien son euro.
Oui, d'ailleurs, il y a un titre du journal AS ce soir qui dit « c'est comme ça qu'on démarre un euro ». C'est vrai que c'est le match dans le jeu auquel on s'attendait, c'est-à-dire un jeu virevoltant, un jeu très direct, un jeu que je définirais comme allègre, mais on ne s'attendait pas à un résultat aussi contondant, aussi, enfin la différence entre les deux équipes au niveau de résultat, personne n'imaginait que l'Espagne puisse battre la Croatie par 3-0. Peut-être aussi du fait de la faiblesse de la Croatie ce soir, en tout cas du manque d'efficacité.
Ouais, et puis disons quand même d'un truc qu'il va peut-être falloir. On va parler d'Espagne d'abord, mais quand même, tu as raison de souligner l'histoire de l'adversaire. Le côté vieillissant, le côté un peu fin de cycle des Croates. Parce que.
T'as les jeunes en face, hein. T'as la Yamal, Williams, et en face, t'as Modric, quoi.
C'est ça qui faisait mal. C'est-à-dire que t'as toujours la qualité de pied. Modric, il a fait ses extérieurs, ses machins, c'est vrai. Mais quand tu as mis. Et c'est d'ailleurs ça aussi que je t'ai entendu en parler d'ailleurs, Fred. Pour moi, c'est aussi une autre Espagne. Moins dans la possession, plus dans la verticalité, évidemment avec Williams, mais pas que. T'as quand même ce jeu direct, entre guillemets, hein, plus direct, on va dire, qui fait plaisir. Et l'efficacité, parce qu'ils ont marqué très vite, très tôt, parce qu'ils les ont un peu endormis, puis ils les ont piqués. Moi, j'ai trouvé que, outre le score, outre le fait qu'ils marquent, tu sais, c'est important de marquer les esprits, je trouve, en début d'Euro, j'ai trouvé que surtout dans le style, c'est un style différent. Pour ceux qui n'aimaient pas l'obsession de la possession, on va dire, côté espagnol, ils sont servis. C'est pas la même Espagne, quoi.
Et d'ailleurs, lundi, je parlais dans l'after des DDD, de la fin du tiki-taka, de ce jeu de possession, de touches de balle, de beaucoup de passes. Et notre producteur Najim me soulignait une statistique. C'est que c'est la première fois depuis 136 matchs, c'est-à-dire depuis la finale de l'Euro 2008, que l'Espagne perd la possession ce soir.
Ah.
C'est dire que, et Luis de la Fuente, le sélectionneur, disait, oui, enfin, la possession, c'est bien quand tu gagnes une derrière. Ce qui compte, c'est de gagner. Et ça prouve vraiment qu'il y a une évolution. Quand vous voyez, par exemple, le premier but de Morata, la transition, c'est une passe très, très en profondeur, très directe de Fabián Ruiz. Il n'y a pas eu 25 passes avant de marquer le but.
Ben non, mais ça plaît en Espagne, ça? Ou alors culturellement, on se dit, c'est pas nous?
Ben bien sûr. Ah ben non. Ben attendez, mais l'Espagne, avant l'époque, c'était la Furia. Avant l'époque de
Chavista. Oui, bon,
c'était la Furia, c'était un jeu très basique.
Tu parles aux cinquantenaires, là, en fait.
Oui. Non, mais en fait, ce qui se passe, c'est que les Espagnols trouvaient ridicule que pendant le Mondial, avec Luis Enrique, éliminé, je vous rappelle, en 8e de finale face au Maroc au tir au but, que l'Espagne à l'époque voulait faire avec sans Xavi et sans Iniesta, avec des joueurs qui n'étaient pas capables de le faire, le même jeu que la grande Espagne. Non, il faut s'adapter aux joueurs actuels. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu as Lamine Yamal, quand tu as Nico Williams, quand tu as des côtés comme ça très performants, que tu peux jouer centré, que tu peux faire un jeu très vertical, et ben t'as plus besoin du jeu horizontal. De toute façon, tu n'as pas les joueurs pour faire toujours du jeu horizontal. Donc cette verticalité aujourd'hui est la principale force de l'Espagne.
Oui, puis surtout là, pour expliquer la victoire de l'Espagne, il y a ça et il y a le milieu de terrain. La bataille du milieu, là, elle a été clairement gagnée par le milieu espagnol. On a vu un Ruiz excellent.
Oui.
Rodri, on connaît.
Ça, c'est la grosse surprise. Hein.
C'est la grosse surprise.
Quoi, Ruiz, grosse surprise.
Ah, bon, ouais, Ruiz,
qu'il soit à ce niveau-là, tu veux dire?
À ce niveau-là.
Oui, c'est, c'est une surprise.
Ah bah oui,
mais j'ai entendu un peu les trucs goguenard. J'ai vu le tweet de Daniel sur Ruiz. Ça serait marrant, faudrait le recruter au PSG. En mode, il n'a pas été bon. Objectivement, c'est un très,
après, tu connais Daniel. À mon avis, oui, c'était plutôt en creux pour Luis Enrique.
Bien sûr, j'ai bien compris. Ouais. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si Luis Enrique a insisté, et c'est vrai que je rappelle toujours cette petite séquence dans une vidéo de TV PSG, là, où Luis Enrique, on lui demandait pourquoi il faisait tous ces changements, ce turnover et tout. Et il citait les joueurs un à un en disant, tiens, il peut jouer là, il peut jouer là. Puis il arrivait sur Fabián Ruiz. Et t'avais l'impression qu'il était amoureux. Et lui, il n'avait pas les différents postes. Il disait, merveilleux, formidable. Il a dit ça sur Fabián Ruiz, c'est rare, faut que tu dises ça pour un joueur. Et donc, tu sens que les coachs, ils aiment ce genre de joueur. Après, je comprends, moi aussi, il m'a agacé dans cette façon parfois de perdre les ballons, de pas être efficace tout le temps. Mais techniquement, c'est un joueur exceptionnel, Fabián Ruiz. Donc aujourd'hui, il a été très bon. C'est vrai qu'il était.
Bah, c'est un espagnol, hein, je veux dire.
Il était très, très
c'est
bon.
C'est un espagnol technique, hein, quand même. Hein.
Enfin, le but qu'il met, c'est quand même un but remarquable.
Et surtout, il était très à l'aise.
Ouais, mais donc, pour finir juste, le milieu. Puisque le milieu, c'était aussi une force
croate. De la Fuente a dit ce soir, Fabián Ruiz est extrêmement sous-estimé, dit-il.
Ouais, mais c'est marrant parce que c'est aussi la façon dont les joueurs, Fabián Ruiz, tu le vois sur un terrain, il gueule beaucoup aussi sur ses partenaires. Mais il y a plein de fois où c'est lui qui fait pas les bons choix.
Moi, je ne suis pas d'accord pour dire que Fabián Ruiz il est sous-estimé. Au contraire, je pense que c'est un joueur qui a pas atteint le potentiel qu'il aurait pu atteindre. Parce qu'il y a un moment, quand on l'a découvert, que ce soit avec les jeunes Espagnols ou avec l'équipe de Naples, on l'attendait vraiment comme un milieu de terrain qui allait vraiment rester dans l'histoire du foot espagnol comme vraiment un grand grand milieu de terrain, et pour l'instant c'est un milieu de terrain qui restera pas forcément, Fred, dans l'histoire du foot espagnol. Donc ça reste un bon joueur de foot, sinon t'es pas recruté par le PSG, sinon t'es pas titulaire en Espagne. Mais moi je suis pas d'accord avec son sélectionneur. C'est un joueur qui est très bon, mais je pense qu'il aurait pu être encore meilleur. Alors je connais pas sa mentalité, on connaît pas bien le personnage, mais je trouve que pour ses mensurations, pour sa technique à l'espagnol, je trouve qu'il aurait pu faire bien mieux. Mais en tout cas aujourd'hui il a été très bon. Encore une fois, cette équipe de l'Espagne, on le sait, il y a beaucoup de qualité. Il y a de la qualité technique avec notamment de la personnalité. Carvajal qui va encore marquer un but, tu vois. Ça, Carvajal, c'est un mec qui a atteint le maximum
sur la passe.
Ouais.
La passe
de Yamal,
ouais. C'est-à-dire, et puis la célébration entre les deux. C'est-à-dire que tu as le jeune symbole barcelonais et tu as le vieux capitaine.
J'ai pensé en plus à ce truc Real Barça dont on lui parle tout le temps.
C'est vrai que le mélange jeune-vieux, là, il est assez étonnant.
Real Barça, jeune-vieux, Fred, là, tu as une sorte de résumé flash. Si ça marche avec eux, entre deux, l'Espagne peut marcher. Moi, après, Fred, j'ai un bémol. C'est défensivement. On l'a dit tout à l'heure, on l'a abordé en parlant du match de l'Italie. Si tu remarques bien les après-buts espagnols, tu as des occasions très vite et ça va assez facilement jusqu'au 16 mètres espagnol. Donc il y aura sans doute, parce que c'est pareil, hein, la Croatie a été vraiment défensivement faible. Il faudra revoir l'Espagne dans d'autres circonstances et surtout si elle est elle-même mise en difficulté. Ayant moins la possession, elle peut l'être en difficulté, et quand elle l'est défensivement, je pense qu'il y a quand même quelques failles.
Ils ont eu moins la possession parce que en deuxième mi-temps ils menaient 3-0 et donc qu'ils ont un peu laissé la possession à l'adversaire. Ouais. Parce qu'en première mi-temps, les Croates n'ont pas beaucoup vu le jour, hein, quand même. Ils ont eu très, 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 très peu le ballon, les Croates. Après, en deuxième mi-temps, forcément, quand tu es mené 3-0, tu essayes de faire quelque chose pour revenir dans ce match. Mais dans l'ensemble, c'est quand même une très, très belle performance, cette équipe d'Espagne.
Dans un instant, Sabir avec nous au 32-16 pour donner son avis sur l'Espagne. On dira un mot de la Croatie. On verra si Fred a reconnu son Modric aujourd'hui ou pas. Ce sera dans quelques instants. Ensuite, ce sera le match de la Suisse et l'équipe de France au programme de l'After. On se retrouve tout de suite.
RMC jusqu'à minuit 30. L'After Foot, Intégral Euro.
Gilbert Bribois.
Florent Gautreau, Kevin Diaz, Fred Hermel, il est 23h52 avant de parler de la Suisse, avant de parler de l'équipe de France. On finit le débat sur l'Espagne qui a battu la Croatie 3-0. Sabir est là au 32-16. Bonsoir.
Bonsoir messieurs, bonsoir Gilbert, bonsoir Flo, Kevin et Fredo. Écoutez messieurs, vous avez déjà dit pas mal de choses.
Non, j'ai pas dit que Yamal avait battu le record du plus jeune joueur à l'Euro.
Ah ouais.
Record.
Écoute, bravo Gilbert pour
ça.
Le plus jeune à 16 ans, 330 jours.
Ouais.
Mais alors, j'ai pas compris si c'était dans l'histoire de l'Euro ou dans l'histoire de l'Espagne, Fred.
Non, non, dans l'histoire de l'Euro.
Après, après,
non, mais pour la passe D. Peut-être après deux,
si,
d'ailleurs.
Si on, si on va par là, messieurs, ce sera le plus jeune à faire une passe, ce sera le plus jeune à faire une touche. Si c'est le plus jeune, c'est le plus jeune. Ce sera le plus jeune à tirer un corner aussi.
Mais t'as vu que Nagelsmann était le, lui, le fait d'avoir sélectionné un joueur plus vieux que lui, c'était la première fois aussi.
Ah ouais.
Enfin, bref. Bref. Sabir, pardon, je t'ai coupé du coup.
Non, je t'en prie. Écoute, pour ma part, match sérieux, match bon de l'Espagne. Je vous ai entendu parler effectivement de la possession, tout ça. Je sais que ça frustre beaucoup de gens, mais Fred l'a rappelé, l'Espagne n'a pas toujours joué comme à l'époque du Barça, avec la possession. Il faut se rappeler des années 90 et des années 2000. C'est plus ou moins le même style de jeu qui est pratiqué aujourd'hui. Donc il faut absolument sauter de l'esprit et du cerveau et ne pas être déçu de voir l'Espagne jouer de cette façon-là. Parce que l'Espagne revient à sa nature initiale, qui pratiquait ce jeu-là, en tout cas avant. Donc oublions un peu les 10 ans, en tout cas, où le Barça dominait le football mondial. Ça, c'est d'une part. D'autre part, il faut rester mesuré sur la performance et sur les 3-0. Parce que la Croatie n'est plus l'équipe de 2018 et de 2022. C'est une équipe plutôt vieillissante. Modric, je pense que, pour ma part, en tout cas, je ne l'aurais pas fait jouer parce que je pense qu'il est... Il est en fin de vie et là il faut arrêter un moment.
Fin de vie footballistique,
fin de carrière. Fin de carrière plutôt, effectivement. Donc, et l'autre point aussi, c'est les blessés. Il va falloir faire le point aussi là-dessus. Donc, Rodri, effectivement, et Morata. Il va falloir voir un peu ce que ça va donner.
Apparemment, ça n'a pas l'air trop grave, hein, à parler de crampes. Fouette, tu confirmes?
Oui, non, mais le sélectionneur Luis de la Fuente a dit qu'il n'y avait pas d'inquiétude.
Et j'apprécie la gestion aussi de l'entraîneur avec Pedri, qui est sorti effectivement assez tôt dans le match. Je pense que l'Espagne, si elle veut aller loin, il va falloir effectivement ménager Pedri au milieu. Et je pense que ça va gérer. Après, c'est toujours la même chose avec l'Espagne. Elle peut retomber dans ses travers. Elle peut faire deux ou trois très bons matchs et sortir en quart de finale, hein, comme elle a pu le faire contre le Maroc, effectivement, à la Coupe du Monde.
Après, faut pas oublier dans quelles circonstances ils sont sortis contre le Maroc. Hein.
Alors, ils sont sortis effectivement contre le Maroc dans un match au tir au but, certes.
Où ils ont ultra dominé, quand même.
Alors, ils ont ultra dominé, mais ils n'ont pas eu 15 000 occasions non plus.
Ah, c'est normal, le Maroc a joué à 11 derrière.
En effet. Mais la France a réussi effectivement à battre le Maroc 2-0. Donc par la suite, donc si l'Espagne était au niveau, en tout cas, elle aurait pu battre cette équipe du Maroc. Donc non. Voilà. Messieurs, juste j'ai un coup de gueule à passer, si je puis me permettre.
Oui.
Sur les commentaires des matchs à la télé sont extrêmement, extrêmement nuls, notamment celui de ce soir avec un de vos. Enfin, je vais parler de Dugarry qui n'a pas été bon. Je sais que la langue française ne permet pas d'avoir forcément des commentaires intéressants à la télé, mais malheureusement.
Après Dugarry, c'est juste un des meilleurs commentateurs peut-être des 15 dernières années. Donc, c'est chacun son avis, mais en tout cas, moi j'ai mis le match sur M6 pour écouter Dugarry, pour te dire la vérité.
Eh ben, en tout cas, ces analyses, je les ai pas trouvées forcément assez bonnes. Il a beaucoup critiqué l'Albanie, effectivement, qui joue avec ses moyens de toute manière. Mais j'ai pas, enfin, de manière générale, les commentaires en France, malheureusement, à la télé, je parle bien, sont pas très intéressants. Et on n'a jamais fait de débat là-dessus. Je ne sais pas si c'est la langue française qui ne permet pas forcément d'avoir des commentaires intéressants, mais je pense que ça serait intéressant un jour d'avoir ce débat-là, parce que la radio, moi je mets en tout cas la télé, je mets la radio à côté, et c'est beaucoup plus intéressant pour ma part.
Bon, bah écoute, très bien, je te conseille RMC, hein, Sabir en l'occurrence, c'est pas mal. Il y a un joueur espagnol dont on n'a pas parlé, que tu voulais souligner, enfin que tu voulais citer, oui. Fred, je sais que...
Ouais, Simone.
Ah, je m'attendais à ce que tu me parles de Nico Williams, parce que comme c'est un de tes chouchous du moment, là.
Oui, on en a beaucoup parlé, mais moi je trouve que Unai Simon, bon, il fait une petite bêtise là sur ce qui provoque le pénalty, mais enfin, il fait quelques arrêts très importants, hein, un des moments importants du match. Et d'ailleurs, le sélectionneur pense que le MVP aurait dû être partagé, il aurait dû avoir deux meilleurs joueurs, c'est-à-dire Fabian Ruiz, qui est celui qui l'a obtenu, et Unai Simon.
Bon, oui, très bien. Je suis d'accord. Côté croate, les gars, oui, alors Modric, bon, il fallait pas l'inviter. Compliqué, c'est un peu exagéré. Non,
mais il faut toujours l'inviter, Modric, Lucas Modric. Modric, comme si Laurent Maier, qui a 15 ans de moins, il est extraordinaire. Hein, c'est pas comme si. Moi, je rappelle quand même, hein, toujours que la Croatie, c'est 4 millions d'habitants. Donc en fait, la Croatie, c'est le Val de Marne.
C'est comme l'Uruguay.
Donc il y a un moment, 4 millions d'habitants, ouais, il va y avoir quelques
petits trous. La Croatie, si on prend la sélection du Val de Marne, la Croatie va gagner.
Ah ben je pense aussi. Mais
l'Uruguay aussi. T'es sûr qu'il y a 4 millions d'habitants au Val de Marne?
Non, mais tu vois, je te dis, ça doit être.
Je suis en train de réfléchir parce que je pense qu'il y a 10 millions d'habitants en tout en Île-de-France. Donc il n'y en a pas 4 millions dans la zone.
Il y en a, on est 12 maintenant, 12 millions d'habitants en Île-de-France. Bon, donc je ne sais pas combien il y en a, mais une fois j'avais regardé que c'était à peu près équivalent.
1 400 000 dans le Val-de-Marne, tu t'es un peu enfermé.
En tout cas, une partie de l'Île-de-France, si vous voulez, le Val-de-Marne et le 93.
Il y a beaucoup de monde dans sa rue, Kevin, c'est pour ça qu'il est un peu déstabilisé.
mais en tout cas, la Croatie, ça reste un tout petit pays, et forcément, il va avoir des trous générationnels maintenant. Difficile quand même pour une équipe comme la Croatie de ne pas mettre son capitaine Luka Modric titulaire dans cette compétition.
Non, mais ce n'est pas tant Modric qui, effectivement, même sur quelques passes, apporte toujours, c'est évident. D'ailleurs, au passage, j'étais surpris qu'il ne tire pas le pénalty. Tu sais, qui a été accordé à la Croatie, qui a été raté d'ailleurs.
Enfin, il l'aurait mis, tu diras.
Et en dehors de ça, tu sais, ces sélections dont on dit souvent, on a parlé beaucoup avec Fred, parce que c'est arrivé en France, c'est arrivé en Espagne, c'est arrivé dans toutes les sélections. C'est très dur d'arrêter, de dire, de changer avant d'aller dans le mur.
Modric, il a déjà pris sa retraite internationale, puis
oui,
il est revenu.
Mais je ne parle pas que de Modric, là. Je parle moi de la sélection en général. C'est une sélection, effectivement, qui est en train d'arriver à la fin d'un cycle, mais que tu as du mal quand tu es sélectionneur, et c'est logique, tu sais, de l'arrêter avant que tu n'ailles vraiment dans le mur. Donc, bah, ils sont en train de vivre
d'ailleurs,
un peu ça.
D'ailleurs, le sélectionneur lui-même, ouais. Il est là depuis l'éternité.
Ouais, bien sûr. C'est toute l'ambiguïté. Après, tu as quelques nouveaux joueurs. Hein. Tu as leur buteur, Boudimir, qui est là, enfin, qui n'était pas dans l'ancienne génération. Tu as effectivement Lovro-Mayer qui était là, qui a raté aussi, qui n'a pas cadré, là, justement sur l'arrêt de Simone. Et lui, il doit faire mieux quand même derrière, soit donner dans l'axe, soit au moins cadrer sa frappe. Donc, il ne l'a pas fait. Globalement, effectivement, quand tu vois pareil, tu vois entrer Perisic, tu sais, c'est toujours les mêmes, tu vois, toujours au même moment. Donc, c'est clairement une équipe. Alors, il y a toujours de la qualité technique.
Paulo Breitner, la Suisse est une de ses dépendances. Et puis l'équipe de France, évidemment. Et notamment la prise de position de Thuram, Marcus Thuram, qui fait beaucoup parler. Même les politiques se sont emparés des propos de Thuram aujourd'hui. On vous raconte tout dans quelques minutes. Encore une demi-heure d'after. Et ensuite, ce sera la libre antenne de minuit et demi à 1h30. À tout de suite dans l'after.
RMC jusqu'à minuit 30.
L'after foot intégral euro.